La saga de Réor par Zelma Lagerlöf. Un homme s'appelait Réor. Il était de la commune de Svartborg et on le tenait pour le meilleur tireur du bailliage. Il avait reçu le baptême au temps où le roi Olaf exterminait la vieille doctrine dans le Viken, et il était toujours resté un ardent chrétien. Réor était libre de naissance mais pauvre. Il était beau mais pas très grand, fort mais doux. Ses regards et ses paroles domptaient les jeunes poulains. Son appel attirait les oiseaux. Il vivait presque entièrement dans la forêt, et la nature le possédait presque entièrement. La croissance des plantes, le bourgeonnement des arbres, le jeu des lièvres sur les clairières, le saut des perches dans le lac assoupi du soir, la lutte des saisons et les changements de temps, tels étaient les événements de son existence. La joie et le chagrin, c'est de là qu'il les tirait, et non de ce qui se passait parmi les hommes. Un jour, l'habile chasseur fit une bonne chasse. Il rencontra au plus profond de la forêt un vieil ours, et d'un seul coup l'abattit. La pointe effilée de la grande flèche vola droit au cœur du gros seigneur, qui tomba mort. On était en plein été. La fourrure de la bête n'était ni épaisse ni égale. Réor l'enleva cependant, la roula, la jeta sur son dos et poursuivit sa route. Il n'avait pas marché longtemps qu'il sentit un parfum de miel extraordinairement fort. Ce parfum s'exhalait de petites plantes qui couvraient le sol. Leurs feuilles, d'un vert clair, étaient polies et délicatement veinées. Leurs fleurs poussaient sur des tiges menues et formaient un sceptre de calice blanc et serré, d'une extrême petitesse, mais d'où sortaient des plumets d'étamines dont les anthères tremblaient au bout de leurs filets blancs. Réor se dit que ces fleurs, solitaire et presque invisible dans la pénombre des bois, envoyaient message sur message et multipliaient leurs appels. Leur parfum était le cri qui annonçait au loin leur présence. Mais il y avait quelque chose d'angoissant dans ce lourd parfum. Les fleurs avaient rempli leur coupe pour des hôtes ailés qui ne venaient pas. Elles languissaient sous l'opprimante solitude des forêts sombres et sans vent. Là où elles se pressaient, il lui sembla qu'elles chantaient un chant monotone. « Venez !» Hôtes charmants, venez aujourd'hui, car demain nous serons mortes. Demain nous serons couchées mortes sur les feuilles sèches. » Réor put assister au gai dénouement de l'aventure des fleurs. Derrière lui, un léger souffle palpita. Il aperçut un papillon blanc qui errait dans la pénombre entre les gros troncs épais. Le papillon voltigeait, inquiet, incertain, en quête de sa route, et il était suivi d'autres papillons qui criblaient l'obscurité. Enfin, le parfum le guida jusqu'aux fleurs. Comme une chute neigeuse d'ailes blanches, toute l'armée des papillons s'abattit, après son chef, sur les fleurs languissantes. Il y eut fête et orgie dans chaque sceptre fleuri, et la forêt fut pleine d'une allégresse muette. Réor continua sa marche. Le parfum de miel flottait autour de lui. Là-bas, au fond de la forêt, une langueur mystérieuse, plus forte que celle des fleurs, l'attirait comme les fleurs attirent les papillons. Il s'avançait avec une joie douce, dans l'attente d'un bonheur inconnu. Sa seule crainte était de ne pas trouver le chemin du vague objet où aspirait son âme. Tout à coup, devant lui, passa une couleuvre blanche. Il se pencha pour saisir cette annonciatrice de bonheur. La couleuvre lui échappa de la main et coula le long du sentier. Il la vit plus loin qui s'enroulait, restait immobile. Mais quand il voulut encore l'attraper, elle lui glissa, comme de la glace, entre les doigts. Réor fut saisi d'un grand désir de posséder cette bête, la plus sage de toutes. Il courut après elle sans pouvoir l'atteindre, et la couleuvre l'entraîna hors du chemin dans la forêt sauvage. C'était une forêt de pins et de sapins où d'ordinaire l'herbe est rare. Cependant, après avoir marché dans la mousse sèche et les aiguilles brunes, dans les fougères et les buissons d'airelles, il sentit bientôt sous son pied une herbe soyeuse. Des fleurs légères comme des flocons s'y balançaient, et les œillets y entr'ouvraient leurs petites fleurs rouges. Au-dessus, les grands pins étendaient leurs branches noueuses et rousses, hérissées d'aiguilles, où les rayons du soleil se frayaient de nombreux passages, et il y régnait une lourde chaleur. Au fond de l'étroite vallée, se dressait un mur de montagne abrupte où frappait la lumière. Réor reconnut aussitôt le pignon d'une demeure de géant. Sous la mousse et les lichens, il distingua les énormes gonds de la porte en granit. La couleuvre s'était glissée dans les hautes herbes et avait disparu. Il abandonna l'espoir de l'atteindre. À ce moment, il sentit de nouveau le parfum de miel des fleurs languissantes. Il remarqua que la chaleur était lourde et le calme étrange. Pas un oiseau ne bougeait, pas une aiguille ne frémissait. Toute la vie semblait suspendue dans une tension indescriptible. Il se serait cru au milieu d'une chambre où, bien qu'il ne vît personne, quelqu'un l'observait, l'épiait et l'avait longtemps espéré. Il n'en éprouva aucune inquiétude, mais un frisson délicieux le parcourut comme à l'approche d'un spectacle merveilleusement beau. Au même instant, il aperçut la couleuvre. Elle ne s'était point cachée sous l'herbe. Elle avait rampé sur un des blocs de pierre que le gel de l'hiver avait détaché de la montagne. Et juste au-dessous de la couleuvre blanche, une claire jeune fille dormait étendue dans l'herbe molle. Elle n'était recouverte que de voiles aussi fins que d'étoiles d'araignée. On eût dit qu'elle s'était jetée là après avoir, toute la nuit, dansé avec les elfes. Les longues feuilles et des panaches de fleurs tremblantes et floconneuses montaient au-dessus d'elle. Héréor ne fit qu'entrevoir les lignes souples de son corps. Il n'approcha pas, mais il tira son couteau et le lança entre la dormeuse et la montagne, afin que cette fille de géant, pour qui tout acier est un objet d'épouvante, ne pût s'enfuir quand elle se réveillerait. Puis il s'absorba dans ses réflexions. Une seule idée très nette s'imposait à lui. Il voulait avoir la jeune fille qui dormait là. Mais il ne savait pas encore comment il la traiterait. Comme il connaissait mieux le langage de la nature que celui des hommes, il écouta la grande forêt grave et la montagne sévère. La montagne et la forêt lui disaient « Vois, nous te donnons à toi qui aimes le désert, notre belle fille. Elle te conviendra mieux que les filles de la plaine. » Réor, es-tu digne de ce noble et riche présent ? Alors il remercia dans son cœur la nature généreuse, et il résolut de faire de la jeune fille non pas son esclave, mais sa femme. Et comme il pensa qu'une fois chrétienne et civilisée, elle rougirait au souvenir de sa nudité, il déroula la fourrure d'ours qu'il portait sur son dos et la jeta sur elle. On entendit derrière le mur de la montagne un rire dont le sol trembla. Cela ne sonnait point en moquerie. C'était plutôt le rire d'une personne qui avait été fort inquiète et qui riait au soulagement de son angoisse. Le silence et la chaleur cessèrent. Un vent frais courut sur l'herbe. Les aiguilles des pins recommencèrent à murmurer doucement. Le rechasseur comprit que la forêt avait retenu son souffle, anxieuse de savoir comment la fille du désert serait traitée par le fils des hommes. À ce moment, la couleuvre se laissa couler dans les hautes herbes. La dormeuse enchantée ne remuait point. Réor l'enveloppa dans la peau grossière de façon que sa tête seule émergea des poils grisonnants du vieil ours. Bien qu'elle fût la fille du géant de la montagne, elle était délicate avec des membres fins. Le chasseur la prit dans ses bras et sortit de la forêt. Après un moment, il sentit qu'on soulevait son chapeau au large bord. La fille du géant s'était réveillée et, tranquillement assise sur le bras du jeune homme, elle voulait voir qui la portait. Réor allongea le pas et ne dit rien. Sans doute, elle remarqua que le soleil lui brûlait le front, car elle tint le chapeau comme un écran. Mais elle ne le lui posa point sur la tête et continua de contempler son visage. Et il semblait à Réor qu'il n'avait besoin de rien lui demander, ni même de lui parler. Il la porta en silence jusqu'à la cabane de sa mère. Tout son être était rempli de félicité, et quand il atteignit le seuil de sa maison, il vit la couleuvre blanche, qui donne le bonheur domestique, se glisser sous le mur de fondation. Ainsi s'achève la saga de Réor par Selma Lagerlöf.